franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Ernst Jünger.
Il vécut si longtemps qu'on ne savait plus parfois s'il était encore de ce monde ou déjà hors du temps. Celui qui chante les armes et les hommes dans Orage d'acier, son livre sans doute le plus connu, survit aux 14 blessures qu'il reçoit sur les champs de bataille de la guerre de 14-18. Par son œuvre vaste, variée, qui engendre toujours admiration et malaise, Ernst Jünger demeure présent, comme le reste par leur nom, ces insectes qu'il capturait vivants, conservés morts soigneusement dans ses tiroirs d'entomologistes.
Mort en 1998, plus que centenaire et habillé depuis très longtemps en patriarche serein, il avait organisé autour de lui le rituel de la visite chez le grand écrivain. C'était dans un village on ne peut plus allemand, au menu tarte aux prunes et ouverture des tiroirs à coléoptères. L'homme aimait pratiquer avec beaucoup de précision les classifications d'insectes. En revanche, il entendait échapper à celles qui ont si profondément distingué les hommes du XXe siècle. Il prétendait même pouvoir grimper sur une éminence et de sa hauteur regarder les militants des différents camps, ces punaises, s'entre-dévorer. Mais, à bien des moments, volontairement ou non, il avait quitté la posture de l'observateur. Ainsi, ce vendredi 23 mars au soir, sur Arte, le cinéaste Wolfgang Conte comment il se trouva mêlé en octobre 1941 à l'exécution des 48 otages de Chateaubriand. Le téléfilm s'appelle « La mer à l'aube ». Guy Moquet, l'un des fusillés, avait 17 ans. Jünger, à l'époque, déjà 46, mais il lui en restait 57 pour affermir encore son talent d'écriture et retoucher trait après trait son personnage. Nicolas Beaupré, bonjour.
Bonjour.
41 ans au compteur.
Oui.
Et auteur. Et vous en êtes le seul du dernier volume de la gigantesque Histoire de France des éditions Belin, Les Grandes Guerres, 1445, 1143 pages.
Oui, c'est cela.
Ouais. Vous n'avez pas tout rédigé, vous n'avez pas rédigé l'index.
Non, c'est ça, c'est la seule chose que je n'ai pas rédigée.
Et alors dans l'index, on trouve beaucoup de références à Jünger et dans le corps du livre, les extraits d'Orage d'acier, le livre de la Première Guerre mondiale, puis aussi des photos de lui.
Oui, notamment une photo où il défile justement en 41, rue de Rivoli à la tête de ses troupes.
Et oui, assis fièrement sur un cheval. L'homme parlait un français parfait avec ce qu'il fallait d'accent à l'ancienne.
Je suis né le 29 mars 1895 à Heidelberg. J'ai commencé à écrire à 18 ans. Quand j'étais dans la Légion étrangère, c'était la première fois que j'ai porté l'uniforme et, curieusement, l'uniforme française.
Enfin, son père avait réussi à mettre bon ordre à cette courte aventure dans la Légion étrangère et dans la guerre de 14, en Somme, puis en Champagne. C'est l'uniforme allemand qu'il porte, un uniforme de lieutenant bientôt, avec les gants, la badine, bien sûr. Le jeune homme avait à peine appris à dire « je », qu'il devait dire « nous ».
Oui, le « nous » d'abord des engagés volontaires, comme beaucoup de jeunes lycéens allemands de l'époque. Ils s'engagent volontaires, en fait, dès le début de la guerre, dès les premiers jours, dans un célèbre régiment, le régiment de Gibraltar de Hanovre. Et donc, il part au front, en fait, après une instruction. Il ne participe pas aux premières batailles de 1914, mais à partir de 1915, il va séjourner au front. Un séjour interrompu par les très nombreuses blessures qu'il a reçues, 14, dont plusieurs très graves, et jusqu'à 1918, en fait, jusqu'à la dernière grande bataille, jusqu'à l'offensive allemande de 1918, lors de laquelle il est à nouveau donc grièvement blessé.
On n'a pas d'extrait filmé d'une adaptation d'Orage d'acier, dont le succès n'a pas été immédiat. En revanche, il en existe d'À l'Ouest, rien de nouveau, autre texte allemand bien connu, davantage pacifiste que le livre de Jünger.
Quel âge as-tu ?
16 ans.
C'est au baptême du front ?
Oui, mon capitaine.
Laisse tomber. Je suis que simple soldat.
J'avais cru que...
On te demande pas de croire, on te demande juste d'écouter.
À vos ordres.
Ça se prend dans les côtes, une baïonnette comme ça. Et il faut que tu t'appuies pour l'enlever. Le temps que tu fasses ça, t'es un homme mort. Y a rien de mieux qu'une pelle. Si tu veux attraper un gageux sous le menton avec ta pelle, tu te décalotes comme un œuf. Et c'est raide, une pelle. Comme une trique. Frappe un homme entre le cou et l'épaule, juste là. Et il se retrouve coupé en deux.
Eh ben, nom de Dieu.
Du travail propre.
J'ai comme l'impression que ça va être le feu d'artifice.
Planquez-vous ! Mais vite, mais vite !
Les remarques, à l'ouest, rien de nouveau. Adaptation d'Albert Mann. Ou Junger, c'est un peu un choix.
Oui, on ne sait pas si les deux se sont rencontrés, sans doute non, même si Günter Grass, dans un de ses derniers romans, a mis en scène une rencontre imaginaire entre Remarque et Junger. Ce qu'on sait, c'est que Remarque admirait beaucoup, en fait, l'œuvre de Junger, alors que l'inverse n'était pas forcément vrai. Dans un de ses articles de l'entre-deux-guerres, dans un interview qu'il donnait à un journal anglais, Junger disait que le livre de Remarque était bien commode parce que c'était un camouflage pacifiste qui permettait de masquer toute la littérature nationaliste allemande.
Qui avait davantage de succès dans les ventes de l'entre-deux-guerres. Il y a quand même des thèmes communs. La fête fantastique de la guerre comme feu d'artifice.
Oui, la guerre, c'est chez Junger à la fois une mise à l'épreuve de l'individu. Donc on va voir en fait le narrateur, l'auteur, le soldat, se mêler en fait à la fois à la bataille de matériel, à la guerre technique, à la guerre moderne, et en même temps participer au coup de main, au combat au corps à corps, aux patrouilles pour prendre des prisonniers. Donc on a vraiment dans le livre de Junger ces dimensions de la guerre à la fois comme fête individuelle, comme fête d'essence, et puis comme épreuve en fait, comme épreuve initiatique presque, sous le feu de la guerre moderne.
Ce combat, il va le poursuivre après la défaite allemande en entretenant le rêve de révolution conservatrice pendant la République de Weimar. Il y avait d'autres extrêmes droites que le nazisme. Il y avait les nationaux conservateurs dont il était une figure de proue.
Oui, il était l'une des figures de proue de cette révolution conservatrice, expression d'ailleurs forgée par son secrétaire Armin Möller, qui est devenu en fait ensuite l'historien de ce mouvement. Et effectivement, Junger, avec son frère Friedrich Georg, a été l'un des principaux animateurs de cette révolution conservatrice, qui était en fait un refus à la fois de la défaite, un refus de la démocratie, un refus de Versailles, un refus de la bourgeoisie, et qui prônait donc une Allemagne régénérée en quelque sorte par une guerre qui ne se serait pas terminée. Et donc Junger, il va dans les années 20 être ce qu'on pourrait appeler un fasciste en fait. Et un intellectuel fasciste, un intellectuel d'action, qui va écrire plus de 140 articles dans diverses revues.
Ces articles ne sont pas traduits en français, ils sont maintenant republiés en Allemagne. La seule chose dont nous refusons l'usage, c'est le bulletin de vote.
Oui, oui, c'était quelqu'un qui était favorable à l'action. On le voit d'ailleurs saluer, même si lui-même, de manière ambivalente, n'a pas participé à des attentats. Au contraire, par exemple, de Ernst von Salomon, qui a participé à l'attentat contre Rathenau, qui était un de ses amis. Lui-même n'a pas participé à des attentats, mais il a toujours refusé de les condamner, les attentats de l'extrême droite. Et effectivement, c'était quelqu'un qui, plutôt a mis son talent au service de cette cause de la révolution conservatrice, donc de tout un réseau de jeunes intellectuels allemands.
1932, il publie Die Arbeiter. Je donne le titre en allemand parce qu'il a retardé au maximum la traduction en français qui n'a eu lieu qu'en 1989. Le soldat, on a entendu tout à l'heure un extrait dire combien la technique était importante dans le combat, c'est un technicien. Et on passe après du soldat au travailleur. Et le travailleur conçoit sa liberté comme une soumission volontaire à la puissance collective à laquelle il se trouve appartenir.
Oui, exactement comme le combattant. D'ailleurs, en fait, le guerrier est une des multiples émanations possibles du travailleur, au même titre que l'ouvrier. Le travailleur, c'est une figure abstraite, en fait, qui lui sert à désigner à la fois l'ouvrier, l'homme moderne, en quelque sorte.
Les méthodes de fabrication moderne entraînent souvent un développement unilatéral de certaines parties du corps. Pendant la pause de midi, on pratique le sport d'égalisation. Des exercices spécialement étudiés sont exécutés et donnent ainsi l'équilibre nécessaire pour le développement normal de toutes les parties du corps.
Oh! Oh! Oh!
Métropolis, la cité des travailleurs.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ernst Unger avec Nicolas Beaupré, on entendait la musique du film de Fritz Lang, on pourrait discuter à l'infini, dire que Fritz Lang fait d'abord référence à l'ouvrier selon le nazisme et que la technique selon Unger n'est pas exactement dans le même rôle. Heidegger a consacré tout un séminaire privé à ce sujet. Il est vrai, Nicolas Beaupré, qu'après 1933, Unger observe un long silence qui suit la prise du pouvoir du Führer, rythmé par des voyages à travers le monde à la recherche de ses chers coléoptères, et qu'il rompt ce silence à la veille de la guerre avec un livre assez ambigu qui s'appelle « Les falaises de marbre ».
Oui, alors avant les falaises de marbre, Unger, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, il a refusé tous les honneurs en fait que voulait lui accorder le parti une fois celui-ci arrivé au pouvoir. Il a refusé d'entrer à l'Académie de Prusse. Il a quitté aussi l'amicale de son régiment lorsque les Juifs en ont été exclus. Il entretenait un rapport ambivalent avec le nazisme. Pour lui, en fait, le nazisme, c'est une idéologie vulgaire, incomplète. Lui, il se considérait plus comme un aristocrate conservateur.
Les héros, les narrateurs des falaises de marbre, ce sont justement des aristocrates qui se tiennent dans leur ermitage, tranquille, observant la nature, sauf que dans le pays voisin, le grand forestier, le méchant souverain, déclenche des hostilités qui vont ravager, avec des scènes de carnage terribles, le pays de l'ermite.
Oui, l'ermite, c'est aussi la figure de l'exilé de l'intérieur, justement. Mon Unger, le livre a été immédiatement vu comme une allégorie en fait du nazisme. Il a d'ailleurs valu quelques ennuis à son auteur, parce que si Hitler était un grand admirateur en fait de l'œuvre d'Ernst Unger, il y avait d'autres dignitaires nazis qui le considéraient comme un dangereux concurrent,
comme Goebbels.
Comme Goebbels, par exemple.
Enfin, les falaises de marbre sont quand même rééditées. On les trouve souvent dans le paquetage des soldats qui partent faire la campagne de France. Alors, lui-même, d'ailleurs, est rappelé dans son grade de capitaine en septembre 1939. Il repart avec moins d'enthousiasme que pendant la Première Guerre mondiale. Il participe à la campagne de France, protégeant autant que faire se peut les monuments français, les bibliothèques françaises, les châteaux français.
Peut-être avec le souvenir de la guerre de 14 où la cathédrale de Reims avait été bombardée et la bibliothèque de Louvain en Belgique incendiée. Et donc ça rappelait peut-être des mauvais souvenirs aussi aux Allemands, puisque ça avait été utilisé par la propagande pour stigmatiser la barbarie de l'ennemi germanique.
Oui, on ne sait jamais chez Unger ce qui relève de l'intérêt.
Voilà, et de la posture.
Octobre 1941, il est à l'état-major allemand à Paris quand intervient le moment tragique qu'évoque ce soir sur Arte, ce 23 mars, le film de Volker Schlöndorff, La mer à l'aube. Un attentat communiste a été commis contre un officier allemand à Nantes et à la sous-préfecture voisine de Châteaubriant. Les Allemands exigent qu'on fusille un très grand nombre d'otages, qu'on puiserait dans le réservoir des prisonniers politiques du camp de Choisel.
Grosse scheisse, monsieur le Cornu. Nous sommes dans un sacré pétrin. Vous en tant que sous-préfet, moi en tant que commandant de la place. Nous devons fournir à Paris, au général Stülpnagel, une liste d'otages.
150 noms.
Les représailles concernent l'armée allemande. Je regrette. Mais je ne peux satisfaire une telle demande.
Messieurs, j'arrive de Choisel.
Il y a dans ce camp une véritable réserve d'otages. Presque tous sont des politiques. Même les femmes sont des combattantes. Surtout les jeunes.
Ouais, pas de femmes. En tout et pour tout pour bien faire, choisissons-en pour le moment 200. Ensuite, Paris fera le tri.
Monsieur le commandant, il serait injuste de faire porter sur la population de la région la responsabilité d'un attentat qui, selon moi, incombe au seul communiste venu de Paris.
Bon, disons des communistes. Dans la moitié d'ici, de la région.
Ils viennent nous chercher.
Messieurs, préparez-vous à sortir à l'appel de votre nom. Pesquet, Antoine, Lefebvre, Edmond, Gardette, Maurice, Granier, Désiré, Timbaud, Jean-Pierre, Pourchasse, Henri, Bourris, Marc,
Docteur Ténine, Maurice et Moquet, Guy.
Ah non, c'est le plus jeune. Alors, entre le moment de la décision de la prise d'otage et l'exécution, 48 personnes y passeront. C'est tout le thème du film de Volker Schlöndorff. Il y a de longs débats, pas seulement avec le sous-préfet de Châteaubriand qu'on vient d'entendre, mais aussi à l'état-major de Paris auquel appartient Junger. Qu'est-ce que c'est cet état-major qui siège au Majestic ?
C'est le Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF. Donc c'est le commandant militaire en France, en fait. Et donc c'est en fait l'état-major qui est chargé de superviser en fait toute l'occupation de la France, en fait. Puisque la France est soumise à un régime d'occupation militaire. Donc, et le chef, c'est Otto von Stülpnagel, en fait.
Je ne le dirai pas aussi bien que vous qui avez été élevé quasiment en allemand, Nicolas Beaupré. Nous sommes avenue Kléber et Arte étant une chaîne franco-allemande. Mmh. Le dialogue entre Junger, le capitaine et le général se déroule en allemand.
Junger,
je voudrais que vous preniez en note des événements, heure par heure, de ce qui se passe, de ce qui se dit. Pas un rapport militaire, plutôt quelque chose de littéraire.
Comme Stendhal sur la campagne de Napoléon.
Moi, je sais que vous préféreriez Hölderlin, mais j'attends un texte
historiographique.
Un seul exemplaire.
Une copie.
À vos ordres, mon général.
Le plus simple qui soit.
Alors, je sens que vous allez nous complexifier les choses.
Oui, on a retrouvé ce texte, en fait, au début des années 2000. Il a été publié d'abord par une revue historique et puis il vient d'être publié sous la forme d'un livre. Ce texte, en fait, c'est un rapport. On ne sait pas exactement la date à laquelle il a été commandé à Junger par Stülpnagel. Sans doute autour du mois d'octobre, au moment de l'affaire de Châteaubriand, soit un peu de temps avant ou peu de temps après. Et en fait, Junger, dans ce rapport, fait... non pas heure par heure comme il est dit dans le film, mais en fait un exposé de chacun des cas d'attentats en France. Il remonte même au premier grand attentat important, c'est-à-dire l'assassinat de l'adjudant Moser par le colonel Fabien dans le métro à Paris au mois d'août. Et donc il remonte en fait le temps et à chaque fois il fait un rapport en fait sur les exécutions d'otages et sur leur effet aussi dans la population.
Ce qu'on dit couramment, c'est que après l'attentat de Barbès que vous citiez, les représailles décidée par le général allemand à Paris était insuffisante, que Berlin fait pression, mais que l'entourage dont Junger fait partie du général allemand, c'est comme une sorte de chevalier de club, de chevalier de la table ronde, des hommes qui détestent la guerre ignoble que leur impose Hitler.
Oui, alors c'est une image d'Épinal hein, qui a été battue en brèche, notamment depuis peu, par un ouvrage de Gaël Heisman qui s'appelle Hôtel Majestique. Donc, il revient sur toutes ces histoires. L'image que nous en montre le film de Schlöndorff correspond en fait à une historiographie aujourd'hui assez largement dépassée et discutée, puisque on sait par exemple que le code des otages en fait date du 28 septembre, donc avant l'attentat de Nantes, un code qui permet justement qu'il légalise, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets à légaliser, qui légalise l'exécution d'otages qui prescrit de l'ordre dans lesquels on va les prendre, d'abord les communistes, les résistants, etc.
Mais la position de l'état-major consiste à dire que ce n'est pas notre intérêt, parce que la population va se dresser contre nous, il faudra plus de soldats en poste en France, la production sera obérée, etc.
Alors ça, effectivement, bon, ça c'est montré en partie dans le film, effectivement, il ne faut pas oublier que l'occupation de la France, surtout à partir justement de l'été de l'automne 41, il ne faut pas oublier qu'au mois de juin, cette radicalisation, elle vient en fait elle vient aussi du fait qu'au mois de juin, l'Allemagne est entrée en guerre contre l'URSS. Et donc, on a besoin de troupes à l'Est. Hein, et le MBF dispose en fait d'un nombre de policiers, d'administrateurs, de militaires très faibles pour encadrer le pays. Et donc, sa crainte, c'est assez pragmatique et tactique, hein, c'est qu'on rentre dans un engrenage de violence, dans un cercle vicieux. Et donc, c'est pourquoi on demande justement à Unger d'évaluer les effets de cette politique.
Il traduit aussi les lettres des otages. Et alors, cet homme viril, tenant du fondamentalisme masculin, parce qu'il y a un fondamentalisme masculin
exactement,
aussi, on le sent comme ébranlé par les proclamations, les déclarations d'amour que dans leurs dernières lettres, les condamnés à mort expriment.
Alors effectivement, ça c'est peut-être la dimension la plus littéraire et peut-être aussi en quelque sorte un peu entomologiste du rapport de
l'homme des insectes.
Voilà, du rapport de Unger qu'il fait en fait dévier de son projet initial. Effectivement, il va traduire notamment les lettres des 27 de Chateaubriand, hein, et il va dans son journal rapporter son ébranlement du fait de ces lettres de fusil. Et en fait,
ce journal est pléiadisé. Deux volumes, édition de Julien Hervier notamment, et c'est mélancolique qu'il poursuit sa rédaction au milieu de la vie mondaine, visitant Picasso dans son atelier, participant chaque jeudi avec les Otto et jouant d'eau au déjeuner de Florence Gould, ou fréquentant les hauts lieux de la collaboration où il rencontre Céline, qu'il nomme Merline.
Paris, 7 décembre 1941. L'après-midi à l'Institut allemand, rue Saint-Dominique. Là, entre autres personnes, Merline. Il dit combien il est surpris, stupéfait que nous ne fusillions pas, ne pendions pas, n'exterminions pas les Juifs. Si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s'y prend. Paris, 8 octobre 1941. Monsieur l'ambassadeur de Brinon, au coin de la rue Rude et de l'avenue Foch. J'ai fait la connaissance là de Sacha Guitry, que j'ai trouvé agréable, bien que chez lui l'acteur dépasse de beaucoup le poète. Je me suis entretenu avec lui de Mirbeau, dont il m'a raconté qu'il était mort dans ses bras, lui chuchotant à l'oreille dans un dernier souffle, ne collaborez jamais. Ce que je note pour ma collection de dernières paroles.
Mirbeau, l'auteur du Jardin des Supplices, à lire le Jardin des Supplices avec un verre de bon vin à la main en écoutant les bombardements qui vont bientôt se multiplier sur Paris, le théâtre fantastique de la guerre.
Oui, les journaux parisiens d'Unger, c'est à la fois une introspection en fait, un retour sur lui-même, comme si on était passé un peu de la guerre comme expérience intérieure pendant la Première Guerre mondiale à l'expérience intérieure comme guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, effectivement, c'est aussi un document exceptionnel sur la vie mondaine et la vie culturelle à Paris sous l'occupation.
Il n'est plus là à partir du printemps 1944. Il est admis dans le corps de réserve. Ça le sauve peut-être parce que ses amis, les chevaliers de la Table Ronde, du Majestic, le nouveau général commandant en chef et ceux qu'il a connus vont être pris. Oui. Dans l'attentat contre Hitler.
Oui, effectivement, une partie des officiers de l'entourage donc, de Unger, donc, notamment Speidel, qui était son chef direct, et qui ensuite a servi sous les ordres de Rommel, qui était un proche de Rommel, et puis Heinrich von Stulpnagen, qui a succédé à son cousin Otto. Ces officiers allemands vont être impliqués dans l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Unger, lui, était proche de ces gens sans avoir été impliqué directement dans l'attentat, mais il va quand même par précaution brûler un grand nombre de papiers à ce moment-là.
Il est de retour en Allemagne où il assure la défense passive de son village et puis où il reprend ses activités d'entomologiste, de chasse aux coléoptères. Vous me direz que dans les immédiates années d'après-guerre, il n'a pas beaucoup d'autres possibilités.
Alors, il peut tenir ses journaux. D'ailleurs, il continue à le faire, hein, donc, qui sont aussi dans le volume de la Pléiade, donc les journaux de Kirchhorst. Mais il ne peut pas publier parce qu'il est interdit de publication par les Américains, ce qui refuse à se plier en fait, au fameux questionnaire de dénazification.
Mais en Allemagne de l'Ouest, qui réapprend la démocratie, on se méfie quand même beaucoup de Unger. Unger, il est persuadé qu'il est devenu un résistant et qu'il l'a été constamment. Il est de ceux qui ont permis l'épanouissement intellectuel du nazisme. Et alors, en Allemagne de l'Ouest, on le sait.
Alors, c'est ce qu'on pense, en tout cas, et c'est ce que pensent beaucoup de gens, même si, effectivement, la révolution conservatrice, on l'a dit déjà en début de l'émission, c'est un mouvement qui est distinct du nazisme, qu'il considérait plutôt comme un concurrent. Hein. Mais effectivement, Unger, par ses textes d'ailleurs qu'il refuse de revoir republié, donc tous ces articles des années 20 et des années 30, hein, a participé d'un mouvement de radicalisation de la droite allemande parallèle à celui du nazisme. Et donc il est tenu en suspicion à cause de ça.
Et alors, quand il peut republier, que ce soit en Allemagne ou en France où il n'a pas été interdit, il retouche trait par trait, doucement.
Effectivement, alors au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après donc avoir été interdit, il recommence à publier. Donc là, il va écrire des ouvrages aussi de nature différente, des romans de science-fiction, par exemple. Et il va aussi entreprendre de retoucher presque toujours en fait ses œuvres, notamment les livres de la Première Guerre mondiale. L'édition définitive de Race d'acier, c'est les années 60. Et même les journaux parisiens, c'est aussi retouché à plusieurs reprises.
Alors en France, où le jugement est moins politique qu'en Allemagne, plus littéraire, on apprécie de plus en plus Junger. Donc c'est la visite au village de Wilfringen, dans la maison qui était une maison de grands forestiers de la famille Stauffenberg, avec la tarte aux prunes, la crème fouettée. Il utilisait d'autres choses aussi, non ?
Oui, il se plaisait à montrer à ses visiteurs ses trophées.
Oui, oui, hein. Mais je pensais que vous alliez me parler du LSD.
Ah oui, alors effectivement, ça c'était. Il est un grand expérimentateur et il expérimente les drogues.
Parce que parmi les visiteurs, il y a à trois reprises François Mitterrand, que Philippe Berthelet questionne respectueusement à l'occasion d'une émission de 3 heures sur France Culture en 1993.
Monsieur le Président de la République, à plusieurs reprises, vous avez témoigné à Ernst Junger un intérêt officiel. Quelle signification donner à cet hommage officiel ?
Ce n'est pas un hommage officiel. C'est un homme et un écrivain qui m'ont toujours intéressé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Le chancelier Kohl le connaissait. Il a répondu à ma curiosité en me conduisant jusqu'à la maison d'Ernst Junger en Bavière. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Ernst Junger à Verdun au moment des cérémonies très importantes qui ont marqué un élément, je le crois, assez décisif du rapprochement franco-allemand. Et cela n'a pas d'autre signification que l'intérêt que je porte à cet écrivain.
Ne peut-on pas craindre que l'intérêt que porte le président de la République, comment dire, ajoute aux contresens nombreux qui entourent sa personnalité ?
Quel contresens ? Dites-moi. Il me semble que je ne suis quand même pas le seul à aimer son œuvre et être intéressé par le personnage.
Günter Grass a fort mal pris la...
Oui, je sais. Ce sont, j'imagine, des querelles d'écrivains. Je sais bien que sa situation pendant la guerre en France a ému certains de mes amis. J'étais moi-même dans les rangs de la résistance. C'était pas très déterminant. Ce n'était pas un homme engagé. Et, d'autre part... Son intérêt, son amitié pour la France ont été souvent manifestes. Donc il n'y avait pas d'empêchement majeur pour que je marque à Ernst Junger une certaine sympathie.
En fait, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer à la fin de leur vie.
Oui, tout à fait. Hein.
La reconstruction du passé.
Oui.
L'organisation des funérailles aussi.
Oui.
Une messe sera possible, dit Mitterrand. Et Junger, lui ?
Junger, il était tradition protestante, mais sans avoir vraiment d'éducation religieuse. Tous ses livres... sur la Première Guerre mondiale ne porte d'ailleurs pas de traces de mystique chrétienne. Mais par contre, son passage à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale est marqué par plusieurs lectures de la Bible. Et là, dans ses journaux, il redevient en quelque sorte un chrêtien en lisant la Bible. Et se
peut-être
convertir...
plus l'Ancien Testament voilà, que le Nouveau Skippour, quelqu'un qui au départ n'était pas philosémite, est quand même appréciable.
Oui, et à la fin de la vie, effectivement, il va se convertir au catholicisme. On ne connaît pas effectivement la profondeur de cette conversion.
Mais l'enterrement a lieu
religieux.
En grande pompe en 1998. Et depuis, le succès d'une guerre continue en France et s'est développé en Allemagne. Un grand colloque tout récemment. Alors, ce soir, en Allemagne et en France, sur Arte, La mer à l'aube, de Volker Schlöndorff, dont le scénario est publié par les éditions Saint-Simon, tandis que, beaucoup plus lourd, au bon sens du mot, est publié par Belin, le dernier volume de sa gigantesque histoire de France, dont vous êtes le maître d'œuvre, Nicolas Beaupré, Les Grandes Guerres 1914-1945. Nous parlons de l'histoire du papier, lundi avec Éric Orsena, il est 14h, Jacques Sigal, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Frédéric Martin, Franck Oliver, et dans un instant, les informations.